réplique la question trans avec Claude Habib et Serge Effez. La dysphorie de genre désigne les manifestations d'inconfort éprouvées à l'égard de son sexe de naissance. Longtemps marginale ou marginalisée, cette réalité est devenue, comme l'écrit Claude Habib, un phénomène de société. Les médias lui font une place de plus en plus grande. Il y a aujourd'hui, c'est le titre du livre de Claude Habib, une question trans. De cette question brûlante et qui a une immense portée anthropologique, nous allons discuter aujourd'hui avec Claude Habib et avec Serge Effez, psychiatre, psychanalyste, thérapeute familial, qui publie « Transition, réinventer le genre ». Commençons par clarifier le débat. Qu'est-ce qu'un trans, Claude Habib ?
Un trans ou une trans, une personne trans, on va dire.
Une personne trans, oui.
Maintenant, c'est tout à fait flou. Auparavant, on parlait de transsexualisme et on pensait à des personnes qui se faisaient opérer par ces opérations lourdes de réassignation sexuelle, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une vaginoplastie pour les hommes, une phalloplastie qui est une opération encore plus lourde, encore plus compliquée pour les femmes, ou encore une métoïdioplastie ou métaplastie qui consiste à sortir le clitoris et faire une sorte de mini pénis avec un clitoris exaucé, si je puis dire. Bon, donc avant, on voyait que c'était des conversions à la fois hormonales par la prise d'hormones croisées et chirurgicales. Et puis ça ne l'est plus, ça ne l'est plus en droit, parce que la France a arrêté sous le coup d'ailleurs de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a tapé sur les doigts de la France en disant que l'exigence de ces opérations préalables était une atteinte au droit à l'intimité, et puis que ça créait des stérilités, qu'on rendait pas les gens stériles comme ça. Bon, et donc maintenant, trans est largement quelque chose de déclaratif. On se déclare trans. Et si vous regardez les demandes des jeunes ou des activistes, est trans quelqu'un qui dit qu'il est trans, sans avoir besoin de prendre la moindre médication, sans avoir besoin de prendre d'hormones, sans avoir besoin pour les filles de ne serait-ce que cacher leur poitrine avec les bandages qui raplatissent les seins, sans avoir besoin de rien, il suffit de dire qu'on est trans pour l'être. Et ça, évidemment, c'est tout à fait problématique.
Attendez, mais d'un autre côté, ces réassignations sexuelles continuent d'exister. Il y a des gens qui, pour justement changer de genre, vont jusqu'au bout de cette conversion. Vous dites qu'il suffit de se déclarer trans, un certain nombre de trans...
Ça dépend. Et en droit, si on prend le droit, il faut prouver 2 ans de vie sous le costume et la coutume de l'autre sexe, donc avoir des témoignages de, je sais pas, de ses voisins ou ses employeurs, comme quoi si on est un homme, on vient en perruque et si on est un homme en transition vers le féminin, on vient en perruque et en jupe. Bon, donc il faut avoir 2 ans de vie, et puis il faut toujours l'approbation d'un médecin et le jugement pour être trans. Mais donc en France, vous n'avez plus besoin d'avoir le moindre médicament, ni d'avoir le moindre changement morphologique.
Non, je comprends, on n'en a plus besoin, mais cette prise de médicaments et cette chirurgie continuent d'exister.
Bien entendu, voilà, c'est ça, entendu. Certains désirent vraiment vivre la transition.
Est-ce qu'ils sont maintenant majoritaires ou minoritaires parmi les trans?
Ah non, ils sont minoritaires. Ceux qui sont opérés, ceux qui vont vraiment dans... Ils sont minoritaires et ils sont un petit peu menacés par cette vague montante de gens qui affirment une transidentité sans rien faire. Je pense à celles qui ont vraiment travaillé ce que les Américains appellent le passing, c'est-à-dire la plausibilité, le fait d'être vraiment pris pour des femmes si vous êtes une femme trans. Voit des hommes costauds, barbus, qui disent « appelez-moi mademoiselle » parce qu'ils sont dans cette mouvance non-binaire, et elles sont vraiment révoltées par ça. Elles disent « ils n'ont pas le droit de se dire trans. Nous, on a payé pour ça, on a fait des opérations, on a souffert, on a vraiment payé. C'est le moindre gamin qui s'est les cheveux en bleu et qui dit « je suis aussi trans que toi », ça va pas. »
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, Serge Éphèse ?
Oui, c'est-à-dire que quand on parle de trans, on parle, et c'est d'ailleurs le titre de mon ouvrage, d'une transition. C'est-à-dire que, effectivement, la question trans a dépassé la question trans au sens du ou-ou. C'est-à-dire, on est soit homme, soit femme, et il faut se définir comme tel. Donc, un transsexuel, comme vous le disiez, Claude Habib, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, devait passer la frontière. Il devait se transformer complètement, chirurgicalement, hormonalement, sur le plan de son identité. Il abandonnait son statut d'homme pour devenir femme, ou plus rarement d'ailleurs, son statut de femme pour devenir homme. Et puis, la révolution actuelle, c'est que cette question du « ou-ou », elle est déplacée par les jeunes. C'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de ce cloisonnement entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes, pour inventer tout un tas d'états intermédiaires entre ces deux pôles et dans lesquels ils ont envie de se définir. Moi, je qui reçois des personnes transidentitaires toute la journée, jeunes et moins jeunes, je n'entends que ça. Je ne suis ni fille ni garçon. Je suis à la fois fille et garçon. Je suis par moment fille, je me sens par moment fille et par moment garçon. Et c'est cela qui me paraît intéressant, c'est ce que j'appellerais la fluidité de genre, c'est-à-dire cette possibilité pour tous ces jeunes, d'essayer de s'inventer et de remettre en question un certain nombre de, je sais pas comment dire, de dogmes, un certain nombre de faits qu'on attribue naturellement aux garçons et aux filles, pour les remettre en circulation, pour les remettre en chantier et pour s'inventer.
Iriez-vous jusqu'à dire, Serge Éphèse, que la différence des sexes est un dogme ?
Non, la différence des sexes est un fait de nature.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des différences chromosomiques, il y a des différences anatomiques. Mais qu'une fois que ce fait de nature est posé, tout notre travail d'être humain va être de les remettre en chantier, de les interpréter, de les mettre en question, et de savoir comment nous allons nous positionner à partir de ce fait de nature.
Mais écoutez, je suis heureuse que vous le disiez si clairement au micro, parce que dans votre livre, il y a des moments où vous flirtez avec le langage woke d'une manière qui m'a gênée, quand vous dites par exemple, dans tous ces aspects, être garçon ou être fille n'est pas de l'ordre de l'essence, mais de la performance,
oui.
Vous parlez le Butler couramment,
oui.
C'est un agir permanent qui forge l'identité, être garçon ou être fille, n'étant que le fait de se comporter comme un garçon ou comme une fille. Bon, là, moi, j'ai toutes sortes de réserves, parce que je crois vraiment que, dans l'expérience des menstrues, par exemple, soudain avoir ses règles à 13 ans, c'est pas se comporter comme une fille, c'est
bien
quelque
sûr,
chose qui vous arrive.
Mais tout à fait, il y a d'ailleurs des filles qui accueillent ces menstrues avec grande joie, parce qu'elles se sentent femmes et que ça les fait accéder à la féminité, et tout un tas d'autres filles pour qui c'est une catastrophe, parce que justement, le fait féminin est quelque chose qui leur pose question, et que elles n'ont pas adopté ce corps féminin qui va avoir des menstrues. Si vous voulez, je crois que lorsque Simone de Beauvoir a posé cette phrase, cette espèce de bombe qui était « on ne naît pas femme, on le devient », qui est devenu comme un dogme, qui est devenu comme un proverbe aujourd'hui que peu de personnes remettent en question, parce qu'on le comprend bien, ce devenir féminin. Elle a ouvert la voie à tout ça. C'est-à-dire que si être femme n'est pas justement simplement un fait de nature, un fait de corps et un fait de chromosome, mais une action, un agir tout au long de sa vie, elle ouvre la voie à cet aspect performatif du genre, c'est-à-dire que être femme, c'est une série d'actions tout au long de votre vie qui vous positionne comme une femme dans la société dans laquelle vous êtes et de la même façon pour les hommes. D'ailleurs, par rapport à cette phrase de Simone de Beauvoir, Freud, auquel je me réfère, avait dit quelque chose d'encore plus fort, si je peux dire, et bien avant elle. Il disait, il répond à la spécificité de la psychanalyse de ne pas prétendre décrire ce qu'est la femme, tâche dont elle ne pourrait guère s'acquitter, mais examiner comment elle le devient. C'est-à-dire que non seulement il parlait de ce devenir femme, de cette action de deviens qui tu es tout au long de ton existence, mais il disait en plus, on serait bien incapable de dire ce qu'est une femme. Et je trouve que c'était très intéressant de le poser là, parce que c'est toute cette question psychique, c'est-à-dire comment le psychisme habite le corps, comment le psychisme transforme le corps, et comment ces organes génitaux qui sont les nôtres ne disent rien, sont muets, tant que le psychisme ne les a pas mis en vie et en circulation.
Je vais vous dire un truc sur les organes génitaux, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup gênée dans votre livre, c'est page 165, vous dites « Vers 3 ans, il y a prise de conscience de la différence des sexes par les enfants, et les petits garçons découvrent qu'ils ont un pénis, que certains ont un pénis et certains ont un vagin, ce sont les filles. » J'étais extrêmement choquée par ça.
Oui.
Parce que non, les filles ne découvrent pas qu'elles ont un vagin à 3 ans. Il n'y a pas de... On est des corps, je ne dis pas qu'on est des corps sans organes, mais on est des corps sans cavité interne. On n'a rien. On n'a rien là où vous avez quelque chose. Donc j'étais très choquée parce que cette idée d'une cavité, on la découvre la première fois qu'on va... chez le gynéco, la première fois qu'on est pénétré.
Bien
on est
sûr,
pas
mais si vous voulez, aujourd'hui, les parents qui ont beaucoup lu François Dolto, les parents disent très tôt aux petites filles, les petites filles disent « mais moi j'ai pas de zizi, pourquoi j'en ai pas, pourquoi j'ai rien » ou quelque chose comme ça. Et les parents disent très tôt aux petites filles « mais si ma chérie, toi tu as un vagin, tu as...
» Très mieux de dire qu'elles ont un clitoris,
tu as un zouzou, une zézette, enfin comme ils veulent le nommer, mais ils expliquent aux petites filles qu'elles ne sont pas dépourvues d'organes génitaux, mais qu'elles en ont. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est rentré dans le langage très couramment.
C'est plutôt le clitoris qui ferait mieux de signaler à leur petite fille.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Mais attendez, je voudrais là quand même m'interroger avec vous sur l'importance qu'a prise aujourd'hui la question trans. Cette définition s'est élargie. Il y a ceux qui vont jusqu'au bout de la conversion par une réassignation sexuelle, qui est une opération lourde, et une opération tellement lourde d'ailleurs que certains chirurgiens préfèrent opérer des enfants qui souhaitent changer de sexe plutôt que des adolescents et des adultes, parce qu'à ce moment-là, l'opération est plus facile. Mais il y a ceux aussi qui... sont purement déclaratifs. Bon, d'accord. Là, pourquoi ça a pris cette importance? Les temps modernes ont choisi de définir l'homme non par la nature, une nature humaine, mais par la faculté de s'arracher à la nature, donc par la liberté. Deux pics de la Mirandole à Sartre. Simplement, la liberté a toujours été hypothéqué par la naissance. Je suis libre, je choisis, je fais ce que je veux, sauf que je nais homme ou femme. Et on a l'impression que cette hypothèque, les transgenres sont en train de la lever. Ils réduisent à néant la part non choisie de l'existence. Je reprends là une très belle expression de Mona Ouzouf. Résultat, ce ne sont plus des exceptions, ce sont des exemples, des pionniers, l'avant-garde d'une humanité à même de résigner le donné par l'exercice de la volonté, de purs sujets en quelque sorte. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas là un fantasme, le fantasme d'une humanité qui serait, où chacun serait l'auteur de son propre destin, et ne revient-il pas, Serge Éphèse, aux psychanalystes, de déconstruire, c'est un mot que vous utilisez beaucoup, ce fantasme, plutôt que de l'accompagner. Parce que, oui, cette différence existe, il y a des choses que nous ne pouvons pas être. Serge Fez.
En tant que psychanalyste, on amène toujours tout sujet à se confronter à la question des limites. La question est où est-ce que ces limites sont mises. Alors, bien sûr qu'il y a les limites du corps, qu'il y a les limites de la biologie, qu'il y a les limites de l'anatomie, mais celles-ci sont bien minces par rapport aux limites que donne la société au contour de ce que doit être une femme ou un homme. On le voit aujourd'hui en Afghanistan, des femmes qui étaient des femmes libres, à peu près libres jusqu'à maintenant, vont redevenir des femmes voilées, des femmes soumises et des femmes qui n'auront pas le droit de faire des études.
Des femmes bâchées même, pour être dit.
Absolument. C'est-à-dire que un ordre social assigne les hommes et les femmes, depuis toujours, à certaines places, à certaines compétences et à une certaine forme de reconnaissance de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles doivent être. Donc, si vous voulez, l'interrogation aujourd'hui, c'est pas de dire il n'y a plus de pénis, il n'y a plus de vagin. C'est de dire où est-ce que l'on va poser les limites de la différence ou de la distinction, pour reprendre un terme d'Irène Théry, entre les hommes et les femmes. Et ce mouvement, cette interrogation, me paraît profondément intéressante. Parce que elle va toujours dans le sens de ce qui est peut-être une utopie, mais qui est une utopie à laquelle je tiens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va déconstruire dans nos sociétés la question de la domination masculine et la question de la puissance phallique dans nos sociétés qui, à mon sens, a servi les hommes comme les femmes.
Ouais, c'est là que vous parlez le langage woke. Et dans votre livre, déjà, vous évoquez une société patriarcale hétérocentrée, je vous cite, qui rejette quiconque n'est pas dans la norme. Et moi, j'ai jamais vu que je vive dans une telle société. D'ailleurs, l'exemple que vous venez de prendre, l'Afghanistan, c'est pas ici. C'est-à-dire que les assignations cruelles, les femmes bâchées, c'est pas ici.
Et non, enfin, c'est pas ici, mais c'était chez nous il y a pas si longtemps. Excuse-moi, le rejet de l'homosexualité, par exemple, jusqu'aux années 70,
le rejet de l'homosexualité, je suis d'accord,
extrêmement
mais
fort.
Maintenant, là où nous en sommes, où avez-vous vu une société plus libérale que les nôtres? Je dis dans la réalité, pas dans l'utopie. Parce que dans l'utopie, évidemment, on peut faire certainement mieux. Et vous embrassez avec fougue l'utopie dès le début de votre livre. Ma position, écrivez-vous, est toujours du côté de la diversité et de l'utopie. Ben moi, je suis gênée parce que je trouve qu'après le XXe siècle, on devrait se méfier un peu de l'utopie. L'utopie, c'est toujours des projets de bonheur mais immuable, de justice parfaite, de règne de 10 000 ans de bonheur, et ça n'a pas donné que des résultats excellents. Donc l'utopie, c'est aussi une manière de détester tranquillement la société dans laquelle nous sommes, sans voir les formidables progrès sur le plan des mœurs qu'elle nous apporte.
Mais écoutez, ce n'est absolument pas ma position, pas du tout. Au contraire, c'est-à-dire que je rends grâce effectivement à notre société, nous ne soyons pas en Afghanistan ou ailleurs, mais c'est pas pour ça que on ne peut pas continuer d'avancer et continuer de faire mieux. Or, par rapport à ce questionnement très profond sur le patriarcat et sur la domination masculine, je pense qu'il y a encore du chemin à faire et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que justement cette question trans dont nous parlons aujourd'hui, elle est un petit peu à la proue de ce questionnement-là, c'est-à-dire comment tous ces jeunes se confrontent à cette question des genres et des sexualités pour remettre très profondément en question ce postulat, disons ce postulat patriarcal. Si vous allez aujourd'hui dans des cours de collège ou de lycée, vous êtes stupéfait de voir cette foule de jeunes très tranquilles qui ne sont pas des jeunes révolutionnaires, mais qui remettent en question les codes du genre et de la sexualité parce que c'est là-dedans qu'ils s'épanouissent. Ils ne sont pas malades.
L'indétermination juvénile, nous l'avons tous traversée. Je pense que de 13 ans à, mettons, 23, 25, on ne sait pas quelles sont les possibilités de jouissance que vous offre votre corps et votre rapport aux autres. Donc, c'est une période d'indétermination, d'hésitation. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la valorisation par la société de cet état. C'est-à-dire que des psys comme vous, des cinéastes vont dire voilà, ça c'est une merveille. Mais moi je suis pas sûre du tout que ce soit une merveille, et je suis pas sûre du tout que ce soit pas les laisser dans un très grand désarroi que de dire votre hésitation est l'avant-garde de je ne sais quoi. Non, je crois que vous les aidez pas.
Oui, alors c'est justement, je voudrais. Vous dites, les adolescents remettent en question un certain nombre de normes et de dogmes pour devenir ce qu'ils veulent. D'un autre côté, prenons les écoles et certaines municipalités, notamment écologiques, je ne vois pas très bien quel est le rapport avec l'écologie, décident de dégenrer les cours d'école. Des gens à les cours d'école, c'est-à-dire éviter que les garçons ne jouent au ballon pendant que les filles papotent. Et c'est ça me dérange parce que spontanément, il y a beaucoup de garçons qui aiment jouer au ballon, mais comme cette spontanéité est perçue comme un conditionnement, on veut changer les choses. Mais ça crée quand même un climat peut-être utopique justement, c'est-à-dire on va rééduquer tout le monde, ce qui ouvre précisément à la manipulation un champ d'action illimité. On va dire, ben voilà, indéterminez-vous, et on va faire en sorte que vous n'alliez pas les garçons vers ce qui plaît aux garçons et les filles vers ce qui plaît aux filles. Comme si, précisément, toutes les différences étaient des constructions, et comme si toutes les constructions, en plus, devaient être fatalement déconstruite.
Je préférerais prendre ce chemin dans l'autre sens, si vous permettez, et à l'envers. C'est-à-dire que cette déconstruction doit permettre à tous les enfants, justement, de choisir là où ils ont envie de s'épanouir. Si c'est dans le football, c'est très bien. Et si on est une fille qui a envie de s'épanouir dans le football, c'est très bien. Et si on est un petit garçon qui a envie de jouer à la marelle, de se mettre du vernis à ongles et d'aller papoter avec d'autres filles dans un coin de la cour de récréation, ça n'est pas monstrueux, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas une dysphorie, ça fait partie de la diversité. Or, cette déconstruction du genre à l'école n'est pas d'obliger les garçons ou les filles à adopter telle et telle attitude ou tel mode d'être, mais elle est à permettre à l'ensemble des garçons et des filles d'exister comme ils se sentent avoir envie d'exister. Et justement, de dire aux garçons et aux filles, il y a mille façons d'être un garçon, il y a mille façons d'être une fille, il y a des garçons qui jouent au foot, il y a des garçons qui sont bagarreurs, il y a des garçons qui jouent à la poupée, et oui, ça leur plaît beaucoup, et ils n'ont pas, pas des sous-garçons ou des sous-personnes. Toutes ces diversités peuvent exister.
D'accord.
Plein.
Mais moi, dans ce grand geste de bénir la diversité, on est d'accord. Enfin, je veux dire, personne n'a envie de réprimer. Et justement, je crois finalement que on les réprime plus. Votre première phrase, dans le premier paragraphe de votre livre, les jeunes de maintenant, ils sont fluides, et tout ça, ils refusent les étiquettes. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils adorent les étiquettes. Dans le livre d'Alessandrin, Arnaud Alessandrin, c'est un sociologue pro-trans, il dit que il fait des enquêtes de victimation, combien vous avez été persécuté parce que vous avez été harcelé comme trans, et il dit la dernière fois, il y avait 36 catégories, et maintenant, il y en a 41. Et toutes ces catégories se multiplient, chacun a son dossard. Moi, je trouve que la fluidité, elle était bien plus grande au XXe siècle. Mmh. Je veux dire qu'au XXe siècle, David Bowie, il était vraiment fluide.
Oui, alors par rapport à ça, je pense que vous avez raison. Et d'ailleurs, je parle à un autre endroit de mon livre de ce que j'appelle la passion identitaire. C'est-à-dire qu'il y a chez ces jeunes, effectivement, une quête d'identité, une quête d'étiquette, mais ce sont des étiquettes un peu comme disait Lacan, le bric-à-brac des manteaux dans son magasin d'accessoires. C'est-à-dire, voilà, on cherche une étiquette un jour pour pouvoir se rattacher à un groupe avec un certain nombre de normes, et puis après, on jette cette étiquette à la poubelle pour en trouver une autre. Mais il est clair que nous voguons tous évidemment dans ce besoin identitaire et que même le mouvement LGBTQIA qui commence à agréger de plus en plus de possibilités, à partir du moment où on est dans une défense identitaire, ça veut dire qu'on définit des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. Se définir comme homosexuel, par exemple, qui ne recouvre évidemment qu'une partie de sa personnalité, à partir du moment où on est dans une revendication identitaire par rapport à l'homosexualité, autour du mariage pour tous, par exemple, autour de la filiation des couples de femmes pour avoir des enfants, on s'enferme momentanément dans cette identité pour revendiquer quelque chose et s'opposer à un courant mainstream. Mais ça ne veut pas dire qu'on se réduit à cette identité. Or, ce qui me paraît intéressant, et ça c'est le travail que je fais avec ces dizaines de jeunes que je reçois aujourd'hui et qui sont dans ces parcours transidentitaires, c'est justement de leur montrer cela. C'est-à-dire, voilà, tu te mets telle étiquette, telle identité aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que recouvre cette identité et qu'est-ce que cette identité va venir contraindre à l'intérieur de toi.
Bon, moi, ce qui me gêne, c'est le refus du jugement. Alors évidemment, je comprends que c'est une partie de votre travail en tant que psy, vous accompagnez vos patients, vous refusez de les juger, ce qui est normal, et vous pratiquez une écoute bienveillante. Je vois pas comment on pourrait être psy en faisant autrement. Ce refus du jugement, s'étend. S'étend, je dirais, là où il faut juger. Comment dire, vous êtes en face de cas individuels et vous voyez pas le big picture, vous voyez pas l'ensemble. Par exemple, ce qui est très frappant dans votre livre, c'est que vous ne voyez pas ce qui saute aux yeux. La demande est devenue féminine à 75%.
Bien sûr, je le vois, parce que je le vois dans mes consultations. Je vois de plus en plus de jeunes femmes qui sont dans ces demandes de parcours transidentitaire.
Voilà, avant, la figure du transgenre, c'était un homme qui devient femme, et maintenant, c'est massivement à 75% un refus de la féminité. Ce refus de la féminité pose des nouveaux problèmes. Est-ce que c'est pas une contagion? Est-ce que c'est pas ce que une docteur Lisa Littman a défini comme rapid onset gender dysphoria, c'est-à-dire surgissement rapide de dysphorie de genre qui n'est pas dans l'enfance, c'est pas des garçons manqués, elles sont au contraire très féminines, etc. Et soudain, vers la puberté, et soudain, en rapport avec des copines de classe, parce que c'est des clusters, et avec une fréquentation assidue d'Internet, on bascule. Et cette bascule est très rapide et très étrange.
Alors,
des raisons pour les parents, de se poser des questions. D'autant plus de raisons que nous avons maintenant un phénomène de détransition vers 25 ans de femmes qui regrette d'être devenue stérile, de plus avoir de seins, d'avoir les joues bleues de barbe, encore que ça c'est transitoire, et d'avoir une voix très grave. Et ça, c'est irréversible. Donc, maintenant, on a ce problème de la détransition que les activistes refusent de voir, mais qui est... D'accord, c'est une minorité, mais c'est une minorité de la minorité,
oui.
Et c'est un problème. Oui. Donc ça, vous ne l'évoquez nullement dans votre livre.
Mais bien sûr, ça fait partie, encore une fois. Si vous voulez, moi je me suis intéressé à ce phénomène de transidentité, non pas simplement parce que ça correspondait à un fait de société, mais parce que sur le plan de ma pratique de psychiatre et de psychanalyste, c'est quelque chose qui est devenu majoritaire à l'heure actuelle. C'est-à-dire, j'ai vu commencer à voir quelques jeunes arriver à ma consultation, et aujourd'hui, c'est un raz-de-marée, c'est-à-dire que j'ai à peu près 10 appels par jour de parents ou de jeunes qui sont traversés par ce questionnement-là. Alors, bien évidemment, les jeunes, ils parlent entre eux, les jeunes, ils s'identifient à des personnages idéalisés qu'ils voient dans les médias ou à la télévision. Bien sûr qu'il y a des phénomènes de groupe. Je n'aime pas beaucoup le mot contagion, parce que ça voudrait dire que c'est comme une maladie, c'est comme le Covid, alors qu'il s'agit tout de même de bien d'autres choses.
Non, mais on peut parler de mimétisme.
Oui, non, mais je comprends.
Chez les femmes,
je sais ce que c'est que la contagion psychique. Mais
chez
tout de même.
Les femmes.
Non, mais tout de même. même. Bien évidemment, tout cela existe, et c'est pour cela que nous existons, et c'est pour ça que se met en place, à l'heure actuelle, tout un tas de consultations spécialisées dans les hôpitaux qui regroupent des pédopsychiatres, des endocrinologues, des pédiatres, des généticiens, etc. Et qui, ça s'appelle des réunions de concertation professionnelle, c'est-à-dire que pour toutes ces situations, eh bien, parce qu'à vous entendre, c'est comme si, parce qu'une jeune fille se réveillait un matin en disant « Ah ben, je me sentirais mieux dans une peau de garçon, je me sens garçon », il y a immédiatement une foule de chirurgiens et d'endocrinologues qui fondent sur elle et qui la mettent sous hormones et qui lui proposent de lui opérer la poitrine. C'est pas du tout comme ça que les choses se passent.
Excusez-moi.
À partir du moment...
Excusez-moi.
Non, mais laissez-moi terminer. À partir du moment où, effectivement, une adolescente commence à exprimer cela à sa famille, à ses parents, c'est un long processus qui s'engage avec elle, ou avec lui si c'est un garçon, un long processus d'accompagnement, d'évaluation, de savoir, d'évaluation de son malaise, de savoir si effectivement cette expression qui se fait autour du genre ne signifie pas autre chose dans le parcours de cet adolescent, et ça prend du temps
de pouvoir les accompagner. Bon, eh bien, je suis contente qu'en France, il y ait encore ce genre de frein, mais je vous ferai remarquer que dans les pays anglo-saxons, dans certains États américains, on pratique la mastectomie, la double mastectomie à l'âge de 13 ans.
Oui, mais pas chez nous.
Alors, pas chez nous.
Et si vous voulez mon avis, je m'oppose très fermement à ce qu'on opère un adolescent de 13 ans.
Permettez-moi de parler. Quand, dans tout votre livre, vous êtes dans une optique d'accompagnement, et d'accompagnement presque publicitaire, puisque ce sont des avant-gardes qui déconstruisent le genre, on a des phrases où ce qui se passe sur Internet... vous le trouvez louable. Sur les blogs et les forums, les transgenres mettent en image leur propre parcours, prodiguent conseils et encouragements, souvent de façon légère, avec une volonté louable de dédramatisation. Mmh. Donc, cette dédramatisation, vous la jugez louable. C'est très bien de dire, non pas double mastectomie, mais top surgery.
Ce que je trouve louable, effectivement, par rapport à cette dédramatisation, c'est qu'il faut voir que ces parcours, c'est pas des champs de rose. C'est-à-dire que ces jeunes, qui se posent ces questions-là, ils souffrent. Ce sont des jeunes qui se sentent mal à l'aise, ce sont des jeunes qui sont mal dans leur peau, ce sont des jeunes qui se demandent s'ils sont des monstres, ce sont des jeunes qui se demandent, au même titre qu'un jeune homosexuel dans les années 50, où il n'y avait aucune représentation de l'homosexualité, se demandait s'il était seul au monde, et s'il était un monstre, et s'il ne ferait pas mieux de mettre fin à ses jours plutôt que de vivre les affres de ce désir anormal, eh bien, au même titre, tous ces jeunes qui se sentent mal à l'aise dans leur peau, qui ne se reconnaissent pas dans leur corps, qui ne se reconnaissent pas dans les assignations de genre qui leur sont faites, ils sont mal dans leur peau. Donc, la première chose, effectivement, je pense, c'est une dédramatisation. C'est-à-dire, tout ça n'est pas un drame, mérite...
Sur Internet, on dédramatise, il n'y a pas de doute. Ce qui me fait rire...
Mais pour vous, il ne faut pas dédramatiser, Claude Habib ?
Non, il faut être sérieux,
C'est-à-dire ?
Écoutez, le docteur Kennedy Olson dit sur Internet, c'est pas grave, il faudrait opérer plus tôt que 13 ans. C'est pas grave pour enlever la poitrine. Et puis, si plus tard dans la vie, elles reveulent une poitrine, on leur en refera une. Donc ça, c'est de la dédramatisation, mais c'est de la dédramatisation qui fait horreur.
Oui, mais elle veut dire voir à moi aussi, si ça peut vous rassurer.
Merci.
Oui.
Je veux dire
donc
que...
vous ne donnez pas forcément le même sens au terme de dédramatisation.
Oui, je pense, oui.
L'appel à la compassion et l'appel à la symétrisation avec la question homosexuelle est exagéré. Parce que la question homosexuelle, les homosexuels demandaient qu'on leur fiche la paix, demandaient de pouvoir vivre leur sexualité comme ils l'entendaient. Donc, ils demandaient que la société cesse de les opprimer. Alors que les transgenres demandent beaucoup à la société. Ils demandent pas qu'on leur fiche la paix, ils demandent qu'on change l'état civil. Ils demandent qu'on leur fasse des opérations qui sont remboursées. Ils demandent des hormones à vie qui sont également remboursées. Donc ils demandent une médicalisation, ils demandent aussi un changement de toutes les conceptions, et en particulier que les termes changent de sens et que ce qui était un oxymore de campus, le pénis féminin, devienne... et force de loi, ça y est, il a force de loi. C'est-à-dire que en Californie, une femme transgenre avec un pénis, entre dans le spa côté femme, se déshabille et montre son pénis féminin à des mères qui sont là avec leurs petites filles. Il y a un procès en cours. Il y a un procès en cours parce que toutes les femmes, elles ont subi l'exhibitionnisme. Toutes les femmes ont leur a montré des pénis à la sortie du lycée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pénis féminin? Qu'est-ce que c'est que ces cercles carrés que le langage woke nous impose. Et sur votre travail de déconstruction, qui est formidable, c'est génial, on déconstruit, le travail de la civilisation réside dans la déconstruction de la perception binaire du monde qui découle des organes génitaux. Eh bien moi je dirais absolument le contraire. Le travail de la civilisation, ça réside dans la mise en sens de la division sexuelle, et certainement pas dans la déconstruction. Dynamiter les frontières, qui est l'essence des études queer.
Je crois qu'en ce sens, effectivement, on ne se rejoint pas, puisque, effectivement, la civilisation jusqu'à maintenant a été dans le sens d'une interprétation et d'une surinterprétation de la division sexuelle, et que cette interprétation et cette réinterprétation s'est toujours faite dans le même sens, c'est-à-dire au profit des hommes par rapport aux femmes. Et que cette déconstruction dont je parle aujourd'hui n'est pas une explosion du monde, ni une espèce de délire dans lequel le biologique ou le chromosomique n'existerait plus, mais dans une déconstruction de cette asymétrie, cette complémentarité imposée aux hommes et aux femmes depuis la nuit des temps, et qui s'est toujours faite au profit des hommes par rapport aux femmes.
J'ai écrit un livre sur la galanterie parce que je pense qu'à un moment dans l'histoire française, il y a eu cette espèce d'efflorescence merveilleuse qui consiste à dire les actes d'un homme sont soumis à l'approbation des femmes. Et plus vous serez agréable et agréé par les femmes, et mieux ça vaudra. Je vois d'ailleurs pas tellement comment on peut faire mieux que cette soumission au jugement des femmes, de toutes les femmes, pas seulement les petites jeunes, mais la grand-mère,
non, plaire écoutez, aux femmes. Là, je ne parle pas de ce qui se passe dans les salons avec un éventail, je parle de ce qui se passe dans notre société et dans la réalité, et qui est une soumission massive des femmes aux hommes, mais bien évidemment.
Aujourd'hui, vous parliez de soumission massive des femmes aux hommes dans la France d'aujourd'hui, dans les couples d'aujourd'hui,
ça commence à être déconstruit, mais je ne pense pas que nous soyons arrivés au bout de cette déconstruction.
Alors, au bout de cette déconstruction, là-dessus, j'aurai une question à vous poser à tous deux. Et je prendrai un exemple. Et en 2013, je crois, l'Eurovision, c'est un trans, ou une trans, je sais pas comment faut dire, qui a gagné le concours de l'Eurovision. Conchita Wurst, oui. Et le monde a salué cette victoire en disant que c'était un triomphe de la différence. Et je suis très étonné, parce que la différence, c'est ce que je ne suis pas et ce que je ne peux pas être. Il y a peu encore, l'homme était en ce sens différent de la femme et la femme de l'homme. Et maintenant, chacun est à même de devenir ce qu'il veut. La femme un homme, l'homme une femme, et pourquoi pas les deux. Donc, il n'y aura plus bientôt de réalité distincte, mais avec cette fluidité dont vous parlez, Serge Hefez, des changements, des passages, des hybridations, des métamorphoses. Aucune altérité ne résistera à cet raisonnement général. Donc, tout deviendra disponible. Et Claude Habib, vous citez Ian McEwan, qui avait déclenché la fureur des LGBT+, dites-vous, lors d'une conférence, puisqu'il avait dit, il s'était opposé à l'idée que l'identité soit quelque chose de disponible, offert à la demande des consommateurs, comme une étagère sur un supermarché des identités. Et au même moment où Conchita Wurst était couronnée, il y avait des photographies de Carmen Carrera, un transsexuel américain, où il disait, il était alternativement affublé d'un pénis et d'un sexe féminin, et il disait, sur la légende, je suis Adam, je suis Ève, je suis moi. Mais si cette différence-là fondamentale est abolie, ça veut dire qu'il n'y en a plus, qu'il n'y en a plus du tout. Et personnellement, je trouve ça inquiétant. On peut y voir l'apothéose de la liberté, mais on peut y voir aussi l'apothéose de la technique, où être, c'est précisément être opérable, être machinable, être disponible. Et personnellement, je dois dire que cette utopie me fait peur. Donc je ne vois pas la transidentité comme une avant-garde. Mais peut-être ai-je tort, Serge Hefez.
Mais Alain Finkielkraut, on est toujours l'autre de quelqu'un. Enfin, le fait de ne pas vouloir se définir comme homme ou comme femme ne bouscule en rien l'altérité. Vous savez, une des premières fois où j'ai essayé de réfléchir à cette question, c'était il y a quelques années, et j'avais déjà une consultation de personnes transgenres assez florissante, et je recevais le cinquième ou le sixième jeune de la journée, et tout à coup j'ai eu un blanc, c'est-à-dire j'avais pas son dossier sous les yeux, et je ne savais plus si cette personne en face de moi était un garçon qui était en train de transitionner vers le féminin ou une fille en train de transitionner vers le masculin. Et je cherchais, je me disais, mais j'essayais de me rappeler son histoire, et je accroché à ça pour rendre intelligible la relation que j'avais avec cette personne. Et à un moment, j'ai lâché ce questionnement à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je tiens tant à savoir cela? Qu'est-ce que cela va changer dans ce que cette personne est en train de me dire et dans la relation que j'ai avec elle, c'est-à-dire dans l'altérité, justement, dans le fait que cette personne était autre et qu'elle se positionnait et que j'étais autre par rapport à elle. Et ça, c'est comme, vous savez, quand on abat une cloison dans un appartement et qu'on voit une grande pièce qui surgit, eh bien, ça a décloisonné quelque chose. C'est-à-dire, je me suis dit qu'effectivement, l'essence de l'être humain, de ce que nous sommes comme êtres humains, ne réside pas forcément dans le fait d'établir cette assignation, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est-à-dire cette différence, et que on peut tout à fait coexister en tant qu'être humain sans avoir forcément l'obligation de projeter sur eux ce qu'ils ont été, ce qu'est leur sexe de naissance, si je peux dire.
C'est pas en tant qu'être humain, c'est en tant qu'être animal qu'on sait ces choses. Et on les sait d'ailleurs en une fraction de seconde. Hein. C'est quelque chose d'immédiat de voir si l'être en face de nous est un homme ou une femme. Et je dirais, et en gros, de notre génération, de la génération de nos enfants, de la génération de nos parents. L'âge et le sexe sont des choses immédiates de manière animale. Mais ce refus ou cet effacement, pour moi, c'est une artificialisation. Vous le savez pas parce que probablement il avait agi sur lui. Et je crois que on s'insurge tout le temps contre l'artificialisation des sols parce que on met du béton, c'est plus commode pour rentrer la voiture. Mais l'artificialisation des corps est une chose qui se pratique banalement par des gens qui pourtant ont une conscience écologique ou prétendent l'avoir. Moi, je crois que c'est la nature, elle n'est pas seulement dehors et à protéger dehors, elle est aussi en nous. Et ces actions sur soi qui semblent le comble de la liberté sont une agression à notre nature.
Mais alors, Claude Habib aussi, c'est une nature qui a été, comment dire, non pas forcément transformée, mais sublimée par la culture. Parce qu'après tout, la culture européenne, notamment, s'est emparée de la différence des sexes. Je ne suis pas sûr, Serge Hefez, que ce soit simplement pour favoriser la domination masculine et le patriarcat. L'art et la littérature disent autre chose. Et c'est vrai que voilà, ce que nous sommes, beaucoup de ce que nous sommes, repose sur ce que la culture a fait de cette différence. Et effectivement, je m'interroge, pourquoi le déconstruire à tout prix?
Il s'agit de le déconstruire, c'est-à-dire de plus rien trouver de valable dans ce que le passé nous a légué de la différence des sexes, et de jouer de manière parodique Conchita Wurst dont vous parliez. Conchita, c'est le coquillage, donc la femme, le sexe de la femme, et Wurst, c'est la saucisse, donc le sexe de l'homme. Bon, alors c'est nouvelle manière d'être ou d'errer dans les genres. Vous dites, le rôle du psychanalyste n'est pas de juger mais d'accompagner, et je suis d'accord. Bien sûr que la neutralité bienveillante vaut mieux que la partialité malveillante. Seulement, je crois qu'à un moment, il faut juger une évolution de la société, se demander où ça va, quel malheur ça risque de produire. Et votre refus du jugement, votre allergie du jugement, parce que le jugement c'est forcément répressif, ou c'est supposé rabat-joie, eh bien je dirais qu'il s'étend au-delà de votre domaine de compétence, explicitement l'accompagnement des adolescents qui s'interrogent sur leur identité, jusqu'au domaine où le jugement s'impose, qui est le droit. Et le droit, vous dites tranquillement, page 219, le droit de la filiation doit suivre ces évolutions. Donc le droit, c'est la voiture balai qui a pour mission d'entériner les mutations sociales, quelles qu'elles soient. Et là, je dois dire, je ne vous suis pas.
Mais peut-être êtes-vous, seriez-vous favorable à ce moment-là à interdire, effectivement, aux personnes de disposer librement leur corps, de choisir leur trajectoire.
La disponibilité d'état des personnes dans
Ce sont les mêmes, d'ailleurs, et même au sein de ma profession, sont les mêmes psychanalystes qui se sont très violemment opposés au mariage pour tous et à la filiation homosexuelle qui rue dans les brancards aujourd'hui autour de ces questions.
Parce que la filiation homosexuelle, ça introduit la gestation pour autrui, qui pose un problème très...
Pas forcément. Il y a aujourd'hui en France, de par la loi, une filiation homosexuelle qui est établie, alors que la gestation pour autrui est toujours interdite. Donc ça n'est pas forcément corrélé, loin de là. Et que, bien évidemment, on a vu que l'anathème qui a été jeté à ces familles, alors qu'aujourd'hui, elles s'intègrent de plus en plus à la norme, et c'est un état de fait. Mais si vous voulez, à la fois de par ma profession, mais aussi de par mon éthique, je vois les choses davantage comme des trajectoires, comme un devenir, et non pas comme un état. C'est-à-dire que ce à quoi je suis favorable, c'est effectivement c'est cet accompagnement et de voir comment les trajectoires se bricolent, se mettent en place. Aujourd'hui, on peut deviser tant que nous pouvons aujourd'hui sur cette question-là, mais il y a un état de fait. Et cet état de fait, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui interrogent cette question des identités, qui interrogent cette question du masculin et du féminin, qui interrogent les sexualités, qui ne veulent plus se définir par où. Ils ne sont pas soit hétérosexuels, soit homosexuels. Ils sont bi, ils sont pan, ils sont tout ce que vous voulez, mais quelles que soient les étiquettes, ils se cherchent. Et dans cette recherche, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément intéressant parce que cette recherche remet en question un certain nombre de normes établies comme étant naturelles. Les normes, la norme de ce qui relève de la différence des sexes notamment, de ce qui relève du masculin et du féminin. Et c'est un chantier. Et il s'empare de ce chantier. Et je trouve passionnant les entendre.
C'est passionnant
et d'accompagner
de les entendre et de les accompagner,
chantier.
Mais cela dit, il y a un moment où il faut savoir si on laisse ouvert le robinet à hormones, ce que demandent les militants, ou si on freine. Or, dans la vieille Europe, jusqu'ici, il y a des revirements. Et ceux qui étaient à l'avant du mouvement, je pense à la Suède, je pense à la Grande-Bretagne, sont en train de faire machine arrière. Le grand hôpital Karolinska de Stockholm, qui était pionnier, a décidé qu'on ne donnait plus d'hormones croisées avant 18 ans. Donc, il y a
un moment... Très bien. Ça, c'est mettre des cadres et c'est mettre des limites. C'est effectivement notre rôle.
Alors, soudain,
notre
les limites, c'est société. Bien, alors que tout à l'heure, les limites, c'était le truc qu'il fallait déconstruire.
Mais pas du tout. Les limites, c'est quelque chose qu'il faut interroger en permanence pour savoir où est-ce que collectivement, nous avons envie de les mettre.
Alors, attendez, là, je vais dire une chose et ensuite, je vais vous poser une citation de Hannah Arendt. Mmh. Je vais l'offrir à votre sagacité. Mmh. Je suis heureux qu'il y ait cette conversation. Pourquoi ? Parce que vous parlez souvent d'une marche vers l'égalité. Et la démocratie a deux définitions aujourd'hui. C'est une scène où on délibère, c'est aussi une marche. Et si c'est une marche, alors il n'y a plus d'interlocuteur, si vous voulez. Une marche, elle avance et elle ne connaît que des obstacles. Et ces obstacles énervent. D'où la violence des LGBT vis-à-vis de ceux qui se mettent en travers de leur route, etc. Notamment la manif pour tous. Moi, je veux réintégrer la démocratie comme une scène. Et c'est le rôle que j'assigne à Réplique. Donc, il y a une délibération, il y a une conversation, nous sommes des vivants tâtonnants, nous cherchons, et c'est très bien. Et voici maintenant la proposition Hannah Arendt. À la fin de l'édition anglaise de son livre sur les origines du totalitarisme, elle dit ceci. Le premier résultat désastreux de l'accès de l'homme à la maturité est que l'homme moderne a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence, à en vouloir au fait même qu'il n'est pas son propre créateur ni celui de l'univers. Dans ce ressentiment fondamental, il refuse de percevoir rime ou raison dans le monde donné. Tout ce qui est donné suscitant son ressentiment, il proclame ouvertement que tout est permis et croit secrètement que tout est possible. L'alternative à un tel ressentiment, base psychologique du nihilisme contemporain, est une gratitude fondamentale pour les quelque chose qui nous sont véritablement et invariablement donnés, comme la vie elle-même, l'existence de l'homme et du monde, et peut-être, peut-être la différence des sexes. Donc, est-ce qu'on peut pas réfléchir en ces termes? N'est-ce pas la manifestation du ressentiment contre le donné que cette idée que chacun peut choisir son sexe?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça n'empêche que notre mouvement, et notre mouvement d'humanité depuis toujours, a été de remettre en question ce donné pour en repousser en permanence les limites et pour en réinventer les... Je peux vous donner un petit exemple clinique qui me vient en tête. Une jeune fille qui... trois jeunes filles, trois amies, trois copines, comme on dit maintenant, et c'est très valorisé par la littérature à l'heure actuelle, cette image de copine. Mais sur ces trois jeunes filles, il y en a une qui est née garçon et qui a été réassignée à l'âge de 18 ans et qui, aujourd'hui, est une jeune fille, comme on pourrait dire, c'est la plus belle de toutes les jeunes filles du royaume. C'est-à-dire que si vous la croisez dans la rue avec ses deux copines, ses trois copines, et elles sont toutes les trois pareilles. Une de ces jeunes filles, à l'âge de 25 ans, est enceinte et attend un bébé. Et bien évidemment, celle qui est née garçon mais qui est devenue fille, n'a pas eu la baguette magique pour pouvoir devenir mère. Et elle se heurte à cette limite. Et elle parle de cette limite avec moi qui est très douloureuse, parce qu'elle aurait beaucoup aimé porter un enfant, mais à laquelle elle doit se confronter. Mais ce qui est intéressant, c'est que la troisième jeune fille, qui elle aussi veut être enceinte, apprend qu'elle a une maladie de l'utérus qui fait qu'elle ne pourra pas porter d'enfant. Donc elle-même se heurte à cette limite. Voilà, ça me paraît un très beau résumé de ce qu'est la condition humaine, c'est-à-dire il y a des limites, effectivement, qui sont celles imposées par le sens du monde et par la nature. Et puis, il y a des limites qui surgissent dans notre trajectoire.
Alors, Claude Abim, un dernier mot, parce que l'émission se termine.
Ben, le dernier mot, c'est de contester ce statut de porte-drapeau d'un changement de société que vous conférez à ces êtres juvéniles et en recherche, qui ont tout à fait le droit d'errer, mais qui, à mon sens, ne doivent pas être considérés comme une avant-garde ou des porte-drapeaux.
Parfait. Merci beaucoup pour cette discussion. Alors, je renvoie à vos deux livres, Claude Abim, La question trans. Ce livre est publié chez Gallimard dans la collection Le Débat. Serge Éphèse, Transition, réinventer le genre, aux éditions Kalman-Lévy. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre L'identité arménienne. Mes invités seront Raymond Kevorkian et Michel Marian. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation aujourd'hui Alexandra Malka, à la technique Valentin Bobinet, dans un instant Concordance des temps, Jean-Noël Jeannenet.